Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 37 d'aujourd'hui a pour titre générique Manipulation accélérée égale catastrophe à l'appel. Dans l'actualité économique générale, écho 1. Hier, un reportage télé faisait état du constat populaire que les fruits et légumes disponibles dans le commerce général n'avaient plus guère d'arôme et ensuite de goût. Cela m'a rappelé un petit documentaire que j'ai consulté il y a quelques mois au lien qui est indiqué dans la version écrite. Je voudrais rappeler que durant les années 70, cité par le spécialiste ici, un nouveau blé issu de la technologie agroalimentaire à base d'hormones et de croisements génétiques, alors encore naturels, a mis sur le marché des semences un blé court baptisé Triticale. Je m'en souviens encore car j'en avais parlé avec des agriculteurs de l'abri de ma connaissance. Ce blé avait comme avantage de pouvoir être ramassé avec des moissebattes modernes et de rester droit durant sa croissance sans se coucher par terre. Au cours de ces mêmes années, les mêmes agriculteurs de ma connaissance avaient visité l'agriculture hongroise où ils avaient pu voir les cultures de blé et le ramassage tels qu'on les pratiquait en France encore dans les années 50 avec le blé à longue tige traditionnelle. La Hongrie avait donc encore une main-d'œuvre abondante dans l'agriculture, tandis qu'en France, les ouvriers agricoles disparaissaient, remplacés par les machines, fort chères, financées par les prêts agricoles, notamment du Crédit Agricole, lesquels devaient provoquer la faillite de nombre d'exploitations familiales depuis. La grande agriculture à l'américaine, sur des surfaces immenses, homogènes et traitées, n'était pas du tout adapté ni à notre mode de vie, notre territoire, notre goût, notre civilisation, qui souffrit terriblement de ce remembrement qui avait abattu les haies, les bois et comblé les fossés. La planification quinquennale et la réforme agraire de la ténébreuse alliance capitaliste et communiste ont détruit l'agriculture française comme le goût français et l'économie rurale traditionnelle, réputée pourtant dans le monde entier auparavant. Tout cela a favorisé la manipulation sociale désastreuse que l'on sait, le mirage d'une économie de loisirs tant vantée dans les années 70, justement, est en train de tourner comme prévu au drame à tout point de vue. Le palliatif, je devrais dire l'expédient, d'une main-d'œuvre importée n'a fait qu'empirer la catastrophe annoncée et aujourd'hui en train de s'étaler sous les regards éberlués des idiots utiles du régime totalitaire, tout en confirmant les craintes des clairvoyants. Je demande donc instamment que l'on revienne aux semences traditionnelles, adaptant les machines à la nature, et non plus la nature aux machines. Dans le premier cas, on a un service développant les capacités humaines traditionnelles. Dans le deuxième cas, on a un asservissement dommageable à tout et à tous. Quant aux récoltes, le blé entier d'épeautre que j'ai goûté à nouveau depuis quelques années à plusieurs reprises me paraît en effet bien plus nourrissant et agréable au goût que le blé modifié génétiquement actuel. Et le maïs, qui n'est même plus consommable, sauf par les animaux comme les canards ou gavages, ces nombreuses variétés cultivées actuellement sont le triste résultat de manipulations génétiques effectuées, tenez-vous bien, 3 fois par an, en utilisant le monde entier pour bénéficier de 3 récoltes, comme le fait une grande entreprise aquitaine que j'ai visité. Je cherche désespérément un champ de maïs dans mon environnement, un champ de maïs doux, bon à manger pour l'humain, et je me désespère dans le même temps de savoir que les animaux sauvages, comme les ragondins, les sangliers et les chevreuils, mangent les épis de maïs génétiquement modifiés et les répandent ainsi dans toute la nature, sans que jamais personne n'ait été sorti une étude garantissant l'innocuité des grains modifiés dans les laboratoires. Les ragondins urinent dans les cours d'eau où respirent les truites, goujons, chevesnes et autres gardons, poissons modifiés. Les sangliers font des petits et sont chassés par les fédérations de chasseurs qui en font de succulents rôtis. Les chevreuils d'eux-mêmes, dont chacun apprécie les cuissots. Et l'humain est ainsi gorgé de produits génétiquement modifiés, même d'apparence naturelle, même de la meilleure qualité bio. Et l'humain fait aussi des petits, qui ne seront jamais plus les mêmes que leurs ancêtres. La machine infernale est enclenchée. La catastrophe humanitaire est en vue. Dans l'actualité économique, financière, Écho 2, je lisais ces jours-ci un article, au lien indiqué dans la version écrite, de Paul Jorion, décrivant une possibilité rapportée par les chartistes qui observent une opposition flagrante entre une moitié de titres haussiers et l'autre moitié baissière sur les marchés. Les marchés entre guillemets. Cette observation aurait historiquement pour conséquence un crash prochain attendu. Voici le commentaire qu'il m'a obligé à poster. Les circonstances ne sont plus du tout celles des années 70. Alors, les choses étaient encore un peu sincères et les marchés encore assez véritables. Actuellement, cette observation ne fait que confirmer la parfaite dichotomie des traders à la recherche d'écarts, de grands écarts, au profit des banques, contre leurs clients, comme l'ont si bien rappelé les émissaires de Goldman Sachs au Sénat américain. Il faut donc bien voir que les chartistes de nos jours ne tracent que les courbes des positions spéculatives et non plus celles de véritables cours. L'observation est donc en fait une révélation au grand jour des positions secrètes jusqu'ici, laquelle a bien un intérêt pour le public, mais il n'en sera jamais averti, sauf ici, grâce à la diffusion de Radio Silence. Pour ma part, j'estime probable un retour à 4500 de l'indice CAC 40 à la fin de l'année. Ceci parce que toutes les banques ont fait descendre le dit indice, donc ne gagneront qu'en le remontant. Quant aux positions haussières, il s'agit des contreparties déjà prises qui confirment donc la première constatation. Un écart de 33% sur un trimestre est la norme de soutien de spéculation quotidienne à 50 ou 100% l'an, norme de trading performante en dessous de laquelle vous êtes viré des salles de marché bancaires. La notion financière de long terme s'établit donc sur 3 mois. Au-delà, plus personne ne voit rien. Le progrès, entre guillemets, a donc énormément raccourci la vision des opérateurs dont les ancêtres voyaient clairement à 30 ans, avec la fameuse rente d'État à 3%. La notion de court terme à 2 ans, moyen terme à 5 ans et long terme à 10-15 ans, au moins de M. Petit du Tailly, qui fut mon livre d'études des années 60, n'est donc plus valable que dans l'économie générale, pour les taillables et corvéables à merci, c'est-à-dire les entreprises et leurs esclaves, lesquels ne sont plus que des moutons génétiquement modifiés pour produire de la laine 4 fois par an. Catastrophe économique et sociale, donc politique, en vue. Accessoirement, j'ajoute que les humains génétiquement modifiés ont acquis une telle estime d'eux-mêmes qu'elle les rend aveugles au mépris de leurs dirigeants et exploiteurs, qui les ravalent pourtant d'évidence au rang de canards gras landais. Je vous renvoie au renvoi de la version écrite sur une déclaration fort clairvoyante, historiquement notée. Dans l'actualité économique monétaire Écho 3, je vous produis là une synthèse peut-être un peu longue, pardonnez-moi, mais je pense tellement intéressante, c'est vous qui me le direz. Errare humanum est, perseverare diabolicum, oh oui, bien sûr. Nous sommes en plein développement dramatique, prévisible et prévu par moi depuis 65, 71, 76, 80, 96 et quelques autres depuis seulement 1999 de la politique monétaire européenne avec les faillites des pays GS, Irlande, Portugal, Grèce, Espagne et déjà la France que l'on passe sous silence. De plus, nous assistons depuis des mois à des accidents, entre guillemets, je mets les guillemets, qui ressemblent à des assassinats de nombreux dirigeants. Tous les opposants de la politique monétaire unique instaurée par le traité de 666 pages, comme par hasard, dit de Maastricht, disparaissent les uns après les autres. Qui se souvient encore, en août 2010, de la mort soudaine dans un accident, entre guillemets, d'avion, en Russie, de 88 dirigeants polonais, dont le président polonais, en avril 2010, et celle de Václav Klaus et d'autres. Bref, l'économie politique, maniée par les tenants de la philosophie constructiviste, appliquée à l'UE, tend, comme le rappelait Willem Hankel dans une interview à Marianne en 2002, à maintenir, envers et contre toutes les réalités, une monnaie unique dommageable au peuple de l'Union européenne. La question qui va se poser en conclusion tout à l'heure sera évidemment pourquoi. Il est hélas trop tard, dit-il, en 2002 pour arrêter l'euro, mais il est essentiel de continuer à en expliquer les dangers. Les informations fournies par les banques et les gouvernements sont superficielles et se bornent à présenter les aspects positifs. Il faut se battre contre la tendance du politiquement correct qui empêche toute pensée critique. Créer une monnaie commune en l'absence d'une union politique et d'une constitution européenne est antidémocratique. Cela équivaut à mettre la charrue avant les bœufs. Sur le plan politique, la Banque Centrale Européenne ne pourra jamais définir un taux d'intérêt qui convienne à tous les pays de l'Union. Le taux actuel en 2002 est trop bas pour les pays à plus forte inflation comme l'Irlande ou le Portugal. En revanche, il est trop élevé pour les pays en récession comme l'Allemagne. Par ailleurs, l'union monétaire supprime la barrière protectrice que sont les taux de change. Cela va favoriser l'implantation des entreprises dans les zones à bas salaire et une baisse généralisée du niveau des 10 salaires. Résultat, une augmentation du chômage et donc de la dette publique et donc une détérioration des systèmes de protection sociale. En fait, l'euro va faire fonction d'accélérateur de la mondialisation au sein de l'Union. Comme on le voit, cette politique qui a en outre provoqué des dérapages de prix de plus de 85% des loyers depuis 1999, par exemple, ressemble trait pour trait à celle menée avec 26 assassinats à la clé, dont le gouverneur de la Banque Centrale Nationale Allemande, par un certain chancelier Brüning de 1926 à 1934. La volonté d'appauvrir les peuples de l'Europe est évidente dans les deux cas. Il est également évident que les nationalismes vont s'en trouver exacerbés, tout comme en 1933-34, où le parti chrétien-démocrate allemand, présidé par Brüning, fit la courte échelle au NDSAP. L'exemple allemand va se répéter d'ici 2015, quand les Allemands vont se rendre compte que les PIGS les ont floués. En effet, personne non plus ne se souvient de la plainte déposée en 1999 devant le tribunal constitutionnel allemand de Karlsruhe de quatre professeurs d'économie politique, où l'on retrouve, outre le professeur Wilhelm Hankel, déjà cité, Joachim Starbatty, Wilhelm Nolling et Dieter Spettmann. Cette plainte visait à invalider tout simplement la participation de l'Allemagne à l'euro au motif de son inconstitutionnalité. Il est bien possible, même si je n'en ai aucune certitude absolue, que ces quatre-là aient été ceux qui me précédèrent dans mon inscription sur la mailing list de l'IME, l'Institut Monétaire Européen, après que je lui ai réclamé ses statistiques complètes pour la dernière fois, l'année précédant sa conversion ipso facto en BCE, Banque Centrale Européenne. Mon correspondant, au téléphone à Francfort, à Main, m'a alors en effet indiqué que j'étais le cinquième professeur d'économie politique dans toute l'Europe à leur réclamer leur stat. Et je crois bien que je fus donc le cinquième et le dernier. Pour ma part, privé de tout recours constitutionnel en France possible par l'abus officiel du référendum sur le traité de Maastricht de 92, j'ai bien tenté une plainte au pénal pour illégalité de forme des billets en euros, mais personne ne m'a suivi. La propagande en France fut un véritable assommoir où l'on vit l'État mandater des néo-missi dominici, dépourvus pourtant de toute qualification en la matière, dans tous les départements, pour mentir à tout propos, leur bréviaire officiel à la main. La direction politique des choses en France et en Allemagne diffère totalement. Un article récent de M. Gilles Driancourt, le jeudi 29 juillet 2010, sur le site de l'Institut Turgot, s'appuyant entre autres sur deux articles d'Ambrose Evans Pritchard, récemment publiés par le Daily Telegraph, nous indique que, pour bien saisir les différences de mœurs politiques de part et d'autre du Rhin, il faut suivre précisément la chronologie des décisions qui ont été prises dans le prolongement de cette réunion de l'Eurogroupe sur la crise grecque. 1. En France, dès le lendemain 3 mai, l'Assemblée nationale française est convoquée séance tenante par le gouvernement pour approuver le plan de renflouement de la Grèce. Le vote a eu lieu nuitamment, sans débat, dans un hémicycle aux trois quarts vide. De toute évidence, on a joué le calendrier pour que ni les médias ni l'opinion publique n'aient le temps de se mobiliser. Sans doute redoutait-on la réaction des électeurs français à l'annonce d'un plan de 16 milliards d'euros visant à soutenir le déficit grec. Ceci au moment précis où le gouvernement Fillon préparait, tant bien que mal, l'opinion publique à la rigueur budgétaire. J'ajoute, laquelle se développe par des impôts nouveaux sur des contrats d'assurance à capitalisation annoncés ce mardi 31 août, des hausses de prix des énergies qui n'arrêtent pas de tomber et donc des rentrées espérées par l'État de TVA supplémentaires, et l'incroyable soumission par M. Barrois dépêché à Berlin la semaine dernière, toute honte bue du projet de budget français à la chancelière allemande. C'est incroyable. Deux, en Allemagne. Une telle séquence politique n'était pas pensable. Le gouvernement émane du Bundestag. Il a moins de prise que le Parlement français sur son ordre du jour. Techniquement, le vote ne pouvait avoir lieu ni dans la même urgence, ni sans débat. Il a donc dû être programmé à la fin de la semaine considérée, soit le 7 mai. Ce fut une très longue semaine pour le gouvernement d'Angela Merkel, qui vit se déchaîner les médias et l'opinion publique contre la décision prise à Bruxelles par l'Eurogroupe. Sur les radios populaires, les humoristes, prenant l'accent grec, ont ironisé sans fin sur les causes de la ruine de l'État grec. Pour sa part, le journal Das Bild, 12 millions de lecteurs, a publié article sur article dénonçant la tricherie, la gabegie, les avantages exorbitants de la fonction publique grecque, comparant ces derniers à ceux de la fonction publique allemande. Les effets des articles du Bild sur l'opinion publique ont été dévastateurs. Le gouvernement allemand a été pris au piège de sa propre rhétorique et de ses contradictions. D'un côté, il impose à ses citoyens de partir à la retraite à 67 ans. D'un autre, il leur demande de soutenir un pays où, on cite, « les femmes fonctionnaires divorcées, veuves, célibataires ou ayant des enfants à charge peuvent de leur côté prendre leur retraite anticipée après seulement 15 ou 17 ans d'activité, alors que la norme grecque est en principe fixée à 25 ans ». En Allemagne, cette question de l'âge du départ à la retraite des fonctionnaires grecs a suscité d'innombrables polémiques. Dans un raccourci symptomatique des passions du moment, le gouvernement allemand a été accusé de faire travailler les Allemands jusqu'à l'épuisement pour financer les jeunes retraités en Grèce. En France, cette polémique n'a connu qu'un faible écho, cela malgré le projet de réforme conduit dans le même temps par le gouvernement Fillon pour réformer le régime des retraites. Dans la suite de cette chronologie, relevons aussi qu'à partir du mardi 4 mai, les chaînes de télévision allemandes ont mis en place des sondages en direct sur l'opportunité d'un soutien de l'Allemagne à la Grèce. Ces enquêtes d'opinion ont attiré des centaines de milliers de votants. Même si elles n'ont aucune valeur méthodologique, leur verdict est sans appel. 70 à 80% des sondés rejetaient le plan d'aide à la Grèce. C'est dans ce climat de franche hostilité que les députés allemands ont donné pourtant vendredi 7 mai leur feu vert à la participation du pays au sauvetage de la Grèce, malgré un scrutin crucial dimanche pour la coalition d'Angela Merkel et une opinion publique hostile auprès de plus de 22 milliards d'euros sur 3 ans. Le Bundestag, chambre basse, a adopté avec une confortable majorité, 390 sur 601 présents, la loi qui permettra à la banque publique KfW de débloquer ses crédits pour Athènes. Le gouvernement a plaidé devant les députés pour la défense de l'euro et de l'Europe. Le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, argumenta. Pour les Allemands, avec leurs expériences particulières au XXe siècle, la stabilité de la monnaie n'est pas n'importe quoi. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Le gouvernement s'est longtemps cabré contre un soutien à la Grèce. Face à une échéance électorale cruciale dans l'État régional le plus peuplé d'Allemagne, la Rhénanie du Nord, Westphalie. Et en Allemagne, sa popularité s'en trouve sérieusement écornée. Près de la moitié des Allemands, 48%, considéraient qu'il n'a pas très bien, voire pas bien du tout, géré la crise grecque. Comme l'envisageait l'auteur de cet article, c'est-à-dire Gilles Driancourt, la sanction politique est tombée dès le soir du 9 mai. La coalition d'Angela Merkel a perdu la majorité dans ce land et par là même sa majorité à la Chambre haute, Bundesrat, ce qui a considérablement réduit ses marges de manœuvre et condamne, selon les analystes allemands, l'avenir politique d'Angela Merkel. Pour les tenants de l'école du public choice, dont fait partie Gilles Driancourt, cette série d'événements est des plus remarquables. Effectivement, il s'agit de la première crise politique que l'on peut directement imputer à la dévaluation de la rente électorale de l'euro. Je vous livre maintenant un extrait qui porte maintenant plus sur l'aspect juridique que sur l'aspect politique de l'article très long de Gilles Driancourt que vous pouvez consulter au lien indiqué dans la version écrite. Le tribunal constitutionnel de l'Allemagne est un organe qui a pouvoir de vie et de mort sur l'Union monétaire européenne. Contrairement à la croyance générale, les quatre professeurs eurosceptiques allemands n'ont pas abandonné leurs efforts pour bloquer juridiquement les plans de l'Union européenne de renflouement des banques exposées au risque de la dette grecque et depuis le 7 mai au risque de la dette espagnole, portugaise et irlandaise, et j'ajoute aussi française. Leur recours devrait-il aboutir que l'Euroland risquerait la désintégration en quelques jours, peut-être en quelques heures? Je ne suis pas certain que les investisseurs de New York, Londres, Tokyo et bien entendu Francfort comprennent cela. Henri Lepage, dans son dernier article, se demandait « Des juges aussi éminents que ceux de Karlsruhe prendront-ils le risque de voir l'Europe s'acheminer vers une rupture de l'Euroland, risque sensiblement plus élevé qu'il n'est généralement admis ?» Sauf circonstances exceptionnelles, le traité de Lisbonne interdit à l'Union européenne et à ses États membres de se porter garant de la dette publique de tout organisme tiers, public ou privé. C'est la fameuse clause de non-renflouement, « no buyout provision », qui interdit à tout État d'en sauver un autre de la faillite ou de déconfiture, comme vous voudrez. L'interprétation de cette clause est à ce point explicite que le secrétaire d'État aux affaires européennes français, Pierre Lellouche, a déclaré dans un moment d'oubli « Il est expressément interdit dans les traités de sauver un État européen de la faillite. » De facto, nous avons changé le traité de Lisbonne avec ce plan. Cette phrase, lourde de sens, a été reprise dans l'un des recours introduits devant le tribunal constitutionnel allemand. S'il est nécessaire d'en mesurer la portée juridique, on en saisit immédiatement toute la signification politique. Elle est l'expression même de l'idée constructiviste selon laquelle l'état de droit ne peut s'opposer à la mission hégélienne des hommes de gouvernement de réaliser leur vision du bien commun. Ainsi, ceux-ci disposeraient en toutes circonstances de la volonté d'enfreindre, de la faculté d'enfreindre et de modifier les lois fondamentales. Il n'est pas certain que cette vision dictatoriale soit bien perçue par les juges de Karlsruhe, dont la mission est en quelque sorte inverse, puisqu'elle est de maintenir l'action du politique dans le cadre des lois constitutionnelles. Je précise que ma position personnelle est totalement anticonstructiviste et que je réclame d'habitude le respect absolu par ceux qui gouvernent de leurs propres lois fondamentales. Dans son respect strict, sans son respect strict, il ne peut plus y avoir de justice dans un pays et le peuple est livré au servage, ce que l'on voit clairement s'accentuer depuis 30 ans. Mais reprenons le fil suivi par Gilles Driancourt. Parallèlement à ces développements, les soutiens de l'état de droit auront aussi été frappés par le volte-face opéré par la Banque Centrale Européenne qui, le 11 mai, s'est mise à monétiser la dette grecque. Pour cela, elle a dû contourner l'interdiction faite par le traité de Lisbonne d'acheter la dette auprès des pays et États émetteurs sur le marché primaire. Elle a donc acheté des titres, ces mêmes titres, déjà émis, détenus aussi par les banques sur le marché secondaire. Ces mêmes banques ont ainsi pu dégager des liquidités qu'elles ont en grande partie replacées immédiatement dans de nouvelles obligations publiques. Je vous invite à cet égard à vous reporter à mon précédent exposé sur l'anti-monnaie et qui est également sur mon blog. Mais poursuivons. L'exploitation de cette faille, l'exception, dans le traité de Lisbonne, j'ajoute imposé en France contre le résultat du référendum sur la Constitution européenne au motif très constructiviste que l'UE avait besoin d'une constitution pour poursuivre sa construction contre l'avis des peuples. C'est dingue. N'a trompé donc personne. Et de nombreux analystes ont posé la question de savoir si la BCE n'avait pas, de fait, perdu son indépendance. Jean-Claude Trichet, français, a eu beau marteler que la BCE qu'il préside était totalement indépendante, personne n'y croit plus vraiment en Allemagne. Le fait est que, pour la première fois, elle a accepté, sous la pression des marchés et des États, d'appliquer une mesure à laquelle elle s'était toujours catégoriquement opposée. Par ailleurs, la BCE ne pourra pas facilement se débarrasser des titres publics sans risque de fragiliser les marchés. Or, la BCE pourrait se trouver dans une situation où la hausse de l'inflation nécessiterait de sa part d'éponger l'excès de liquidité sur les marchés en vendant ses titres. Il y aurait donc un conflit d'objectifs. C'est vraiment la vérole mise dans la politique monétaire. Alors cet alignement de la BCE sur le plan de sauvetage de la Grèce, adopté par l'Eurogroupe, est en contradiction flagrante avec l'article 130 du traité de Lisbonne. De surcroît, comme le remarquent les plaignants, les professeurs, qui ont saisi le tribunal de Karlsruhe, il ne résout rien du tout. Le soi-disant programme de renflouement ne réduit pas la dette des pays qui en bénéficient. Ce programme a été conçu en la seule faveur des créditeurs. Les fonds destinés à la Grèce sont clairement des transferts financiers puisque chacun sait que la Grèce sera dans l'impossibilité de rembourser ses dettes. Selon les estimations du FMI, la dette publique grecque passera de 120% du PIB à 150% en 2014. Et il faudrait alors une croissance de plus 7,5% l'an pour rembourser. C'est impossible à imaginer. Rétrospectivement, on peut affirmer que ce à quoi l'on a assisté au mois de mai 2010 avec le renflouement de la Grèce, la mise en place du fonds de stabilisation de l'euro et la monétisation de la dette publique par la BCE, c'est à la latinisation de la politique monétaire de l'Euroland. Toute la question est donc de savoir comment cette latinisation sera perçue par le tribunal de Karlsruhe, en principe garant d'une rigueur monétaire très germanique. Selon toutes les apparences, ajoute Gilles Driancourt, le tribunal constitutionnel de Karlsruhe pourrait, par exemple, invalider les décisions du gouvernement Merkel et du Bundestag sur la simple base de l'article 125 du traité de Lisbonne. Mais, plus probablement, il tiendra compte de sa propre jurisprudence. C'est là où il faut bien avoir à l'esprit son arrêt du 12 octobre 1993 sur la loi d'approbation du traité de Maastricht, souvent désigné comme l'arrêt Maastricht. Dans ce célèbre arrêt, le tribunal de Karlsruhe a statué que, en vertu de sa compétence, les personnes résidant en Allemagne bénéficient d'une manière générale d'une protection efficace de leurs droits fondamentaux, également à l'égard de l'exercice des pouvoirs souverains de la communauté européenne, et que cette protection doit, pour l'essentiel, être considérée comme équivalente à la protection des droits fondamentaux qu'impose impérativement la loi fondamentale. Cet arrêt avait fait grand bruit à l'époque. Il avait été critiqué par les dirigeants européens comme une renationalisation du droit communautaire. Dans l'esprit du tribunal, son arrêt devait assurer le maintien des garanties constitutionnelles offertes aux citoyens allemands. Dans un article d'avril 1997, Henri Lepage observait qu'en matière monétaire, le cœur de l'arrêt se situe dans l'affirmation des juges que la Bundesbank ne peut abandonner sa souveraineté monétaire qu'au profit d'un organisme qui soit contraint par les mêmes obligations que celles qui lui sont imposées par la Constitution allemande. Une règle de structure, être indépendante du pouvoir politique, une obligation d'objectif, garantir la stabilité interne de la monnaie. L'examen des clauses du traité de Maastricht ayant montré que ces dispositions étaient compatibles avec les conditions ainsi posées, le tribunal a reconnu que rien ne s'opposait à sa ratification par les instances parlementaires allemandes. Certains experts allemands vont cependant plus loin. Leur interprétation des propos du tribunal est que ceci pose une obligation de résultat. Autrement dit, si l'Union monétaire faillit à sa mission de contrôler l'inflation, les citoyens allemands conserveraient leur droit de dénoncer devant le tribunal le caractère contraire à la constitution allemande de la gestion monétaire européenne ainsi suivie. En cas d'inflation durable et importante, le tribunal de Karlsruhe pourrait ainsi remettre en cause la conformité constitutionnelle de l'engagement allemand dans l'union monétaire. J'ajoute que je rappelle mes récentes constatations que l'indice IPCH avait été faussé récemment pour le réduire en deçà des 2% fatidiques. On voit bien pourquoi. Cependant, ajoute-t-il, la vraie question est davantage de savoir si le tribunal constitutionnel de Karlsruhe prendrait une telle décision au risque de faire voler la zone euro en éclats. Posée de la sorte, cette question revient à se demander si le tribunal jugera en droit ou non. S'il ne juge pas en droit, il intégrera alors toutes sortes de considérations politiques et donc constructivistes notamment. Ce qui l'amènera à réévaluer l'effet de sa propre décision sur sa position dans le système institutionnel allemand. Or, il se pourrait que, par un détour de la raison que l'on aperçoit tout de suite, de telles considérations ramènent le tribunal de Karlsruhe à se prononcer selon le droit. Pour comprendre ce paradoxe, il faut se souvenir que l'arrêt de 93 a profondément changé les équilibres institutionnels en Allemagne en matière de politique monétaire. Peu d'étrangers, même parmi les observateurs les mieux informés, perçoivent à quel point le débat monétaire européen a modifié l'équilibre institutionnel des pouvoirs au sein de la République fédérale. Le pouvoir du gouvernement allemand en est sorti singulièrement affaibli. Conséquemment, si le tribunal de Karlsruhe rejetait purement et simplement les recours introduits par les professeurs et par ce fait acceptait la décision du gouvernement Merkel, il invaliderait son propre arrêt de 93. Il rendrait au gouvernement fédéral le pouvoir perdu en matière de politique monétaire. Surtout, il affaiblirait sa position en tant que troisième pouvoir constitué. L'effet d'une telle décision ne serait ni conforme à la tradition allemande de neutralité monétaire, ni surtout aux intérêts du tribunal constitutionnel. Malgré tout, il est peu probable que le tribunal de Karlsruhe, dit Gilles Driancourt, prenne seul la responsabilité historique de mettre un terme à l'euro. Il entrerait alors inévitablement en conflit avec l'élite dirigeante de l'Euroland qui a imposé la monnaie unique. Le tribunal risquerait ainsi de se retrouver affaibli, sinon discrédité dans l'opinion publique par ces mêmes pseudo-élites. Aussi, selon Gilles Driancourt, les juges de Karlsruhe opteront pour un compromis qui ménage toutes les parties prenantes. À des fins prospectives, on peut se risquer à esquisser les contours d'un tel compromis juridique. En premier lieu, le tribunal jouera très certainement la montre. Dans les faits, c'est déjà la tactique qu'il a adoptée. Il a été largement dit dans la presse allemande qu'il devrait être mieux au courant que la Cour aurait rejeté le recours original introduit par les professeurs, ce qui n'est pas vrai. Leur demande en référé pour une injonction immédiate de bloquer les transferts vers la Grèce a effectivement été rejetée, au motif qu'une telle décision serait trop dangereuse. Mais leur recours est toujours pendant sur le fond. Et Evans Pritchard ajoute « Mon pronostic est que la Cour constitutionnelle essayera de différer l'étude de ses recours pendant un certain temps, espérant que la crise se résorbera. Mais la crise ne se résorbera pas, car la fracture entre le sud et le nord de l'Euroland est inhérente au système et ne peut être comblée. » Si l'on peut être d'accord, dit Gilles Driancourt, avec l'orientation générale de cette remarque d'Evans Pritchard, on ajoutera toutefois que le tribunal de Karlsruhe n'a pas besoin d'attendre la fin de la crise pour prendre une décision. Il lui suffira tout simplement d'atteindre la fin programmée dans 3 ans des plans de soutien à la Grèce et à l'euro. Avec cette donnée à l'esprit, on entrevoit déjà la manière dont le tribunal constitutionnel de Karlsruhe pourrait traiter les recours introduits par le quartet professoral. L'infraction au principe de non-renflouement du traité de Lisbonne étant trop manifestement constituée pour être ignorée, le tribunal attendra l'échéance politique la plus favorable pour prendre sa décision. Sur le volet grec du plan de soutien, le tribunal constitutionnel pourrait décider qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle répondant à une situation imprévue, ce qui rendrait le plan conforme à l'article 125 du traité de Lisbonne, mais empêcherait de toute façon la reconduite du dit plan. Au lieu d'une sanction, le tribunal rendrait ainsi un insigne service politique au prochain gouvernement allemand qui trouverait là un prétexte idéal pour mettre un terme aux transferts financiers vers les pays GS. Ajoutons à ces éléments d'appréciation que l'invalidation du plan allemand de soutien à la Grèce n'aurait, si elle était arrêtée, aucune conséquence pratique. Athènes ne serait pas en mesure de rembourser les 22 milliards qu'elle a déjà reçus de Berlin, et l'État allemand ne pourrait se les rembourser à lui-même en empruntant. Non, s'il y a un jugement partiellement défavorable à l'État fédéral, il portera, dit Gilles Driancourt, sur le SIV, l'instrument de stabilisation de l'euro, pour lequel l'Allemagne doit apporter une garantie de 123 milliards d'euros sur les 750 prévus. Le tribunal pourrait décider que ce soutien n'est pas légal et doit cesser sans délai. C'est l'hypothèse basse, ou que ce soutien ne peut être renouvelé, hypothèse haute, basée une fois encore sur le caractère exceptionnel de la mesure. En dehors du rejet pur et simple de la demande des professeurs plaignants, ce scénario semble des plus vraisemblables, dit Gilles Driancourt, car il préserve l'équilibre des pouvoirs en matière de politique monétaire telle que définie dans l'arrêt de 93. Ce scénario peut également rendre service au gouvernement fédéral. Il n'implique pas de sanctions financières et il permet à chacun de sauver la face. Ma conclusion est que je ne suis pas d'accord avec cette conclusion pragmatique de Gilles Driancourt. La part belle faite au constructivisme et donc au pouvoir absolu des adeptes de la secte noire, descendants des Illuminati et des jansénistes déjà dénoncés par Louis XIV, contre la vie des peuples qui s'expriment de plus en plus souvent en opposition partout, va donc contre l'état de droit, et ceci de plus en plus ouvertement malgré la méthode couée des gouvernants français, qui sont les plus extrémistes de toute l'Europe, de la thèse qu'ils ont eux-mêmes forgée. Depuis 2500 ans, l'état de droit est systématiquement garanti par les monarchies et violé par les républiques qui engendrent la tyrannie, conformément à la rhétorique de Platon. Le conflit est devenu trop évident entre les discours et les actes. La justice est par trop méprisée pour que les peuples acceptent encore longtemps d'être aussi mal gouvernés, et toujours évidemment, à leurs dépens. Une rébellion s'exprimant par le placement au pouvoir de partis nationalistes avec comme mandat le retour à la souveraineté passera forcément par la fin de l'Euroland et le retour à des monnaies nationales. C'est là que l'on voit bien pourquoi les pseudo-élites maçonniques ont imposé l'euro et non pas l'écu, prévu pourtant par leur propre traité. Les sectaires voulaient une révolution, ou plus exactement, la finalisation de leur révolution, la grande, la mère de toutes les autres, bref, la française, glorifiée par leur empire napoléonien verdâtre et triangulaire. C'est ainsi qu'ils ont conçu une monnaie abstraite, l'euro, pour un peuple abstrait, le soi-disant peuple européen. Mais ils ont oublié le calcul élémentaire, provoquant la dévaluation immédiate de 1999. Et en voulant en 2008 sauver leurs instruments de travail, les banques, ils ont oublié la loi naturelle de l'annulation des contraires, sommation algébrique des opérations bancaires qui aboutit à la situation évoquée en écho 2 plus haut, où toutes les positions financières aboutissent forcément au bout du bout à zéro. Donc leurs banques sont en voie de faillite retentissante et frauduleuse par-dessus le marché. Et je fais un volontaire jeu de mots. La catastrophe arrive donc à grands pas, dont nous devrons faire ressurgir la monarchie sur les ruines des factions républicano-maçonniques qu'auront provoqué les piégeurs piégés à leur propre piège. Si nous voulons sauver la civilisation française, évidemment. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.